Tov Shalom, les Adachem, nous allons donc continuer le développement que nous sommes fixés pour cette année, les Adachem, c'est-à-dire de connaître, de réapprendre les capacités qui ont été placées dans notre peuple en tant que cadeau de l'Éternel. En hébreu, c'est Goula. C'est-à-dire que cette forme, cette qualité qui nous est intrinsèque, qui nous est intérieure, qui en réalité l'identité avec laquelle nous avons été créés, c'est notre capacité à quelque chose. De la même manière qu'un Suisse a été créé avec une qualité de précision, eh bien, le peuple d'Israël a été créé avec une certaine donnée. Cette donnée, c'est être capable d'entendre les valeurs de l'infini et de les transmettre au monde. Avec un mot simple, ça s'appelle la prophétie. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été doté de prophétie. Vous comprenez bien que ce monde, sans cette prophétie, c'est un monde qui en réalité obéit à des lois muettes. Et ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a créé ce monde. Il y a un but, de la même manière que nous sommes tous conscients que ce monde n'est pas le résultat d'une n'importe quelle combinaison et qui n'a aucun rapport avec un ouvrier qui se trouve à sa source. Cet ordre que vous voyez dans le monde, cette structure que vous voyez dans toute la création, prouve en réalité que nous sommes dans un degré qui, par nature, est un degré qui nous dévoile les valeurs du divin, et qu'il y a quelqu'un qui se trouve derrière, à la source, à la base, de toute cette création. Donc s'il y a quelqu'un derrière cette création, il y a un but à cette création. Et ce but doit être révélé. C'est le dialogue entre Dieu et le monde. Donc nous sommes en plein dialogue entre Akadosh Baruch Hu et ce monde. Et ce dialogue, c'est Israël qui est censé l'entendre et le faire passer. Parce que, encore une fois, nous avons été dotés de cette prophétie. Alors nous allons continuer notre texte et on va encore découvrir des choses au fur et à mesure. Je vous ai déjà dit que Israël a précédé le monde, c'est-à-dire l'idée d'Israël. Donc l'idée de ce peuple, de cette nation, et non pas en tant qu'individu, je ne parle pas d'un ensemble de juifs, je parle de la nation d'Israël, au niveau de son âme. Nous sommes une nation. C'est-à-dire que si tu fouilles à l'intérieur de toi-même, tu devrais trouver quoi au plus profond de toi-même, chacune d'entre vous, la nation, le âme Israël. Si au fond de toi-même, tu ne trouves que l'individu que tu es, c'est que tu t'es trompé. C'est que tu n'es pas arrivé au bout de toi. Car au bout de toi, quand tu fais, et je répète maintenant l'action de Lech Lecha, qu'est-ce que tu dois trouver dans le bout de Lech Lecha? Goy Gadol. Comme Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech lecha, me'artecha, mi'moladetecha, mi'beit avicha, el ha'aretz aser ar'eka, va vers la terre, aser ar'eka. Qu'est-ce que ça veut dire aser ar'eka? Pas que je te montrerai, pas la terre. Aser ar'eka, c'est toi que je vais montrer aux nations du monde. C'est-à-dire que tu pourras te révéler à partir de ce lieu précis dans ce monde. Et je ferai de toi donc une grande nation. Si je ferai de toi une grande nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'es déjà. Tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre que toi-même. Donc je te permets, moi, l'Éternel, à développer une qualité qui est déjà en toi. Mais que tu ignores pour l'instant. Ça, on est d'accord. Mais que tu dois activer pour révéler en fait la nation qui se cache à l'intérieur de ton être. Je répète donc et je conclue, chacun de nous est une nation. Le Zohar nous dit d'ailleurs que ce Lech Lecha n'a pas été dit à Abraham. Très bizarre. Pourquoi? Pourquoi le Zohar dit une chose pareille, d'après vous? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le livre du Zohar HaKadosh, nous dit que Lech Lecha n'a pas été dit à Abraham.
Il n'avait pas une partie de la nation?
Non, au contraire, il avait. Non. Pas que, Yafenod, merci pour la précision. C'est bien, tu as compris le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ça n'a pas été dit, c'est toujours en train d'être dit. C'est-à-dire qu'il y a une voix dans l'univers qui dit à chaque instant, Lech Lecha. Alors que s'est-il passé avec Abraham? Il est tout simplement arrivé à un niveau de purification de son propre être et il a entendu. Et donc il a fait ce que cette voix dit à chacun de nous de faire tout le temps. Je dirais donc que c'est une formule. Lech Lecha est une formule divine, secrète, qui appartient au peuple d'Israël. C'est une formule qui nous permet d'atteindre notre entité. Quelle est la valeur numérique de Lech Lecha? Lamed, Chaf. Lamed, vous connaissez les chiffres avec les lettres? Lamed c'est 30 et Chaf c'est 20. Ça c'est Lech. Ça fait 50. Et Lecha, ça s'écrit pareil. Donc 50 plus 50, 100. Ça veut dire qu'on arrive à une entité, à quelque chose d'entier, lorsqu'on fait ce Lech Lecha. Et ce Lech Lecha, encore une fois, ce n'est pas que Abraham, donc le Zohar nous invite chacun de nous à quoi? À vivre ce Lech Lecha dans notre vie. C'est-à-dire que chacun de nous doit en réalité réaliser ce Lech Lecha durant sa vie. Alors, c'est une marche, mais c'est aussi une démarche. C'est une démarche profonde que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes venu sur la terre, et ça c'est essentiel. Il faut savoir quitter 3 degrés qui nous empêchent d'avancer. Quels sont ces 3 degrés? Lech Lecha et Arsecha. Qu'est-ce que c'est Eretz? C'est un lieu. Donc je dois quitter un certain lieu qui ne correspond pas pour l'instant à mon identité. Molad de Techa, qu'est-ce que c'est Molad de Techa? Qu'est-ce que c'est Molad? Non, c'est l'origine, mais à quel niveau? Non, pas le lieu. Le lieu c'est Arsecha, on a dit. Molad, vous savez qu'au début du mois, on dit le Molad sera, c'est-à-dire la naissance de la Lune. Au moment où la Lune va commencer à se faire voir dans le ciel. Donc c'est une question de temps. Donc le Molad est un temps. Donc il doit quitter l'espace, tu dois quitter le temps et Bet Avicha. Qu'est-ce que c'est Bet Avicha? Qu'est-ce que c'est la maison de ton père? L'espace a déjà été dit. Un petit peu plus profond, gratté. L'éducation que tu as reçue. Donc, le nefesh, donc le sens humain. Donc, 3 degrés t'emprisonnent pour ne pas que tu dévoiles ce que tu dois dévoiler. 1, c'est un espace qui n'est pas le tien. 2, c'est un temps qui n'est pas le tien. Et 3, c'est une identité qui n'est pas la tienne. Tant que tu ne sais pas te séparer de ces 3 degrés, tu ne peux pas arriver vers la deuxième partie du verset. El ha'aretz asher ar'eka. Vers la terre que je t'inviterai. Vous êtes avec moi? Alors, les 3 degrés, c'est l'espace, le temps et l'homme. C'est tout. Le temps, c'est-à-dire le temps et l'homme, bienvenue. Le temps, c'est-à-dire le temps qui correspond à ma nature. Il y a des temps qui correspondent à votre nature. C'est-à-dire Shabbat, les fêtes, d'accord? Et il y a aussi un temps de reconnaissance de l'espace. À partir de quand le peuple d'Israël commence à compter véritablement les mois de l'année? À Pessah. Dans quel mois c'est? Nissan. Fais-lui passer la feuille, s'il te plaît. D'accord. Alors, fais-lui passer. Donc, si c'est Nissan, quelle est la différence entre ce qui a été compté avant Nissan, avant les ans? Les gens comptaient à partir de Tisserey. Quelle est la différence de compter le début de l'année à partir de Tisserey ou à partir de Nissan, d'après vous? On a retrouvé, en fait, des éléments archéologiques où on montre que l'humanité, avant l'apparition du peuple d'Israël, comptait à partir du mois de Tishrei, qui correspond aujourd'hui à peu près à septembre. Okay? L'humanité s'est fixée de compter de cette manière-là. Quand Israël est sorti d'Égypte, il y a un nouveau compte qui se met en place, et qui est Nissan. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça, d'après vous? Est-ce que l'une d'entre vous a une idée? C'est très profond. Et c'est très simple en même temps. D'accord avec toi, mais et si la sortie d'Égypte était faite à un autre moment? Alors on aurait commencé à compter à un autre moment, ou alors est-ce que c'est voulu qu'on sorte à ce moment-là? Bien fait. Donc HMC veut qu'on sorte à ce moment-là. C'est quoi ce moment-là? J'évite de dire pour ne pas trop vous aider. C'est quoi dans la période de l'année? Bien fait. Vous entendez aujourd'hui des nations du monde qui cherchent à retrouver leur printemps? Le printemps arabe, le printemps machin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle cherche quelque chose qui va vers quoi? Quand on est dans le printemps, on va vers quoi? On va vers? Vers l'été. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Tout renaît, tout refleurit. Donc, en réalité, je prends maintenant l'autre moitié. Si on compte à partir de septembre, c'est exactement l'inverse. On va vers l'hiver. On va vers l'extinction. Donc en réalité, vous voyez en réalité, 2 degrés. Un qui est optimiste, un qui est pessimiste. Donc les nations du monde étaient pessimistes avant l'apparition du peuple d'Israël. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a apporté avant tout dans le monde? Un regard optimiste, c'est-à-dire un regard qui va vers la floraison, vers l'été, vers la lumière, vers la bénédiction. Vous comprenez tellement c'est important? Et maintenant, vous comprenez pourquoi la fête de paix, ça s'appelle dans la Torah aussi la fête du printemps. Chag HaAviv. Parce qu'en réalité, c'est le printemps du monde. Donc Israël, c'est le printemps du monde. Israël, c'est l'optimisme du monde. Israël, c'est la lumière que Dieu veut faire passer au monde, parce que le monde se trouve dans une dépression. Et Israël est censé le sortir de sa dépression. D'accord? Donc, si Israël a été prévu par l'Éternel avant même que le monde ne soit créé, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est pessimiste ou optimiste?
Non,
optimiste. Optimiste, puisqu'il pense à Israël. Israël, c'est l'optimisme du monde. Donc, quelle est la première idée divine, on va dire, de l'optimisme? C'est-à-dire que ce monde a un sens, et qu'il a un but, et qu'il a une capacité à s'en sortir. Ça, c'est pour contrer tous les pessimistes qui voient toujours tout en noir, on n'a plus rien à faire, on est foutu. Akadosh Baruch Hu lui-même est optimiste. D'où est-ce que je sais qu'il est optimiste? Quelle est la parole avec laquelle il apparaît, quel est le nom avec lequel il apparaît à Moshe Rabbeinu pour lui dire justement d'aller sortir les enfants? Non. Il dit Yafet, Erié. On peut dire le nom. C'est-à-dire que le nom de Yutke Vafke qu'on n'a pas le droit de dire, Erié, qui se traduit dans le langage normal, je serai. Je peux d'ailleurs le dire sur moi-même, d'accord? C'est pour ça qu'on a le droit de le dire. Machar, Erié, Gadol, demain je serai grand. Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu vient et se présente avec une carte d'identité à Moshe Rabbeinu en lui disant voilà mon nom. Erié Asher Erié, je serai. Au moment où Moshe veut, doit aller faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? Quand ils vont me poser la question qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur réponds? Dieu lui dit Erié Asher Erié, je serai. Et alors, qu'est-ce que je serai? C'est quoi cette réponse? D'après vous, c'est une réponse? Ben oui, si Dieu l'a dit, c'est une réponse. Mais qu'est-ce qui se cache dans cette réponse? Quand tu dis à quelqu'un je serai, ça veut dire que je crois? à demain, au futur. Donc je suis optimiste. Donc le nom avec lequel Akadosh Baruch Hu apparaît, c'est un nom de l'optimisme par définition. Ça veut dire qu'il y a un demain. Vous comprenez? Donc la première apparition de la rédemption d'Israël de l'Égypte, c'est en réalité sort de ton pessimisme et avance dans un système optimiste dans ta vie. Je peux donc résumer toute la sortie de l'Égypte comme sortir d'un état pessimiste de la vie et commencer une démarche positive, optimiste de mon propre développement. C'est clair ou je répète? C'est clair, Ron? J'essaie de parler. Exactement, je serai. Quand tu dis à quelqu'un « je serai », mais pas « je serai » au conditionnel, au futur, simple. D'accord? Ça veut dire que je crois qu'il y a un demain. Donc Akadosh Baruch Hu est optimiste et il choisit une nation optimiste, un canal optimiste pour sauver ce monde. Ce canal, c'est Israël. Nous sommes la lumière des ténèbres de ce monde. Nous sommes la lumière, nous sommes le cachet, nous sommes le médicament de la dépression des nations. Ok? Donc, où est-ce qu'on est arrivé au niveau du texte? Quelqu'un a noté? J'ai vu chez toi que c'était bien grabouillé. Où est-ce que nous étions? Troisième ligne? Ok. Ok. Alors, Sgoula Mikol Amin. Liot Sgoula Mikol Amin. Donc, vous serez pour moi Sgoula Mikol Amin. Parmi toutes les nations, vous serez pour moi la mémoire, on peut dire, tu as raison, la capacité, c'est-à-dire ma capacité. Vous êtes mes mains, vous êtes mes jambes, vous êtes mes porte-paroles. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu parler? Non. Vous pensez l'entendre un jour? Il n'y a rien à entendre à détail. Il n'y a rien à entendre. Dieu ne parle que par la bouche d'Israël. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a fait. C'est pas une voix comme toi tu entends dans le film. Oh, je suis l'éternel. C'est bêtise ça. C'est une prophétie, c'est une voix intérieure qui ouvre la bouche de Moshe. Moshe commence à parler sans savoir d'Israël que c'est lui qui parle. De Vodal. À chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, à un prophète, c'est ça la prophétie. La prophétie. Ce qui lui ouvre sa bouche, ça s'appelle Nevoah, Nive. Nive en hébreu, c'est Satan. Ça veut dire, il me fait bouger mes lèvres, c'est pas moi qui parle. Si je rentre au moment de la prophétie, un degré de ma pensée rationnelle, je suis plus prophète. Vous comprenez? J'invente. Je rajoute des choses de moi-même. Or, moi, je suis un homme limité. Comment je peux parler des choses de l'infini? Donc, au moment où on prophétise, Dieu mais on veille quoi? Notre cerveau à nous, d'humain. Donc je deviens tout simplement un médium, un médiateur. Il m'ouvre la bouche et c'est lui qui fait bouger mes lèvres. Ça fait peur.
Mais comment on fait?
Quand tu l'es, tu ne te poses même plus les questions. T'inquiète pas. Le jour où tu le feras.
Parce que nous, on
parle. Exactement. Et toutes les paroles qui sont en train d'être passé par ton cerveau, par ta réflexion, c'est encore toi. Au moment où quelque chose sort de lui, béni soit-il, et qui passe par moi, malgré moi, je peux dire des choses qui se réalisent. Et je me demande comment j'ai pu dire une chose pareille. C'est plus moi. Il y a des petits degrés qui ressemblent à cela, dans notre vie à nous. Quand? Il y a ce monde. Bravo. Quand on rêve, c'est exactement ça. Le rêve, c'est un 60e. Alors imaginez-vous combien c'est la prophétie. C'est multiplié par 60 de ce qu'on reçoit déjà. Je ne parle pas d'un rêve bidon, un vrai rêve qui t'a marqué, qui a entendu les choses clairement. Ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas ta réflexion. On te donne. Eh bien, ce message qui vient multiplier par 60, c'est la prophétie. C'est énorme. Qu'est-ce Nahon. Justement, c'est pas qu'il faut pas croire aux rêves, c'est qu'on a du mal à les traduire, à les interpréter. Nahon. Mais en réalité, c'est ça qu'il faut pas croire. Déjà, si on te dit qu'il faut les interpréter positivement, c'est que celui qui t'a dit ça avait peur. Parce que si ça vaut rien, qu'est-ce que j'en ai à faire de dire comme ça ou comme ça? Ça veut dire qu'en réalité, le message est un message, bien un message. Le problème, c'est notre capacité à le traduire, à le comprendre. À ce qu'on appelle un poter chalomot. Ken pa'ari. Poter. Ken, celui qui sait traduire et interpréter.
Comment on appelle un poter?
Poter. D'ailleurs, le mot interpréter, prêter, poter, c'est la même racine. Interprète. Ken? Le faret, en hébreu. Mettre en détail. Il faut être Yosef pour savoir décoder des rêves. Il faut être de la valeur de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? De la valeur d'un homme qui sait faire le lien entre les idéaux et le monde de la matière. Il faut être un homme qui est capable de faire le lien entre... Il faut être capable d'être un homme qui s'annule à la volonté divine. Il avait une prophétie, c'est vrai. De comprendre les rêves, et il était en même temps connaissant les 70 langues du monde. Donc vous savez, il parlait 71 langues, parce qu'il avait en même temps la sonacode, l'hébreu. Alors que Paro, lui, savait 70 langues, et il a vu quelqu'un qui était plus fort que lui. D'accord? Donc ça, c'est ce goût-là. Alors me diriez-vous, oui, mais ça c'est Moshé? Non. Chacun de nous est prophète en potentiel. On a reçu ça. Tu es né d'une maman Israël, tu fais partie de ce jeu. Tu t'es converti, peu importe, tu es maintenant Israël, tu fais partie de ce jeu. Tu as été doté d'une âme qui te permet d'accéder à la prophétie. Ce que tu es capable de faire aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais tu as cette capacité en toi.
Tu vas dire,
par exemple, quand tu auras des enfants, les attacher, mais tu vas leur donner un nom. Ça aussi, c'est de l'ordre de la prophétie. Le nom qui va sortir, et accrochez-vous bien, parce que des fois, le papa qui donne le nom, il est complètement paumé pendant la brique. Quand on lui dit, le bébé va s'appeler, c'est le type qui sort un nom, c'est même pas lui, qui n'a même pas prévu ni lui, ni sa femme, ni rien du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est une prophétie. Et d'ailleurs, les mamans, avant de donner un prénom aux enfants, j'ai beaucoup de mamans comme ça qui m'appellent, et je leur dis, va dormir, et demande à Kadosh Baruch Hu de venir te donner le nom de l'enfant. Et effectivement, ça se passe beaucoup de fois où on vient leur donner un message du nom de l'enfant. Donc il y a des
prophéties,
il y a des degrés. Je remercie Dieu. Odé le ya. Odé, c'est je remercierai au futur, comme Elie. D'accord? Troisième ligne au milieu. Am Israël ala bemarchevet taboré. Donc le peuple d'Israël a été pensé par Dieu. Ke'am venivra ke'am. Il a été pensé peuple et il a été créé peuple. C'est ce que je veux dire par là, pour ne pas tomber dans l'erreur que nous sommes des individus qui se sont rassemblés un jour et qui se sont dit, tiens, viens, on crée un petit club. On va appeler ça Israël. Et là, Kéat, on se rassemble des membres, c'est une carte de membres. Et comme c'est devenu assez grand, on a commencé à s'appeler ça un peuple. Non, c'est pas ça. On a été réfléchi par Dieu, pensé par Dieu, créé par Dieu, déjà en tant que nation. C'est-à-dire que si tu vis à moins que ce degré-là, tu fautes à ta propre identité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter là? Ça veut dire que si tu vis ton judaïsme au niveau religieux, individuellement parlant, tu n'as pas de lien avec ta nation, tu ne comprends pas que tu es issu d'une nation, tu es en train de sauter à ta véritable identité. Toi, tu vas réécouter des cours plusieurs reprises, c'est pas grave, ça te fait du bien. Tu apprends quelque chose à chaque fois, il y a des petites nuances, je suis content que tu le vois. Velachem, et non yachol et itramek, d'ailleurs tu m'as entendu, dans ma pensée je t'ai invité aujourd'hui. Et j'ai pensé que tu devais venir, et Baruch HaShem, avec ton métier difficile, c'est pas évident. Ouais, je sais. Tov. Velachem, et non yachol et itramek, nina achrayut alehu mitelo. Donc le peuple d'Israël ne peut pas se détacher, se dissocier, s'écarter, s'éloigner, ignorer, ce que vous voulez, sa véritable identité nationale. Impossible de nous sauver de ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu vient chez Abraham et qu'est-ce qu'il dit ? Lech Lecha. Combien de fois il lui a dit ?
Une ou deux fois.
Une ou deux fois ? Lech Lecha. Hein ? Une fois ? On a dit tout à l'heure que c'est une voix qui circule dans l'univers éternellement. Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas et il s'arrête. Ça n'existe pas chez lui. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, tout au long de sa vie, il avait un bruit intérieur qui lui disait « Lech Lecha ». Parce que jusqu'à 75 ans, il n'a pas entendu. Il n'était pas prêt de recevoir. Il n'était pas encore un ustensile assez limpide. Il lui fallait 75 ans de vie pour arriver à écouter ce qui est toujours dit. Alors si lui, ça lui a pris 75 ans, combien ça doit nous prendre à nous ? Okay. Alors il faut prier pour être assez limpide pour entendre ce Lech Lecha. Ça veut dire que ce Lech Lecha, c'est en fait un mouvement intérieur qui te pousse sans arrêt à avancer. Tu veux grandir dans ta vie ? Peu importe. Tu veux grandir dans ta vie ? Oui ou pas ? Tu veux être plus belle ? Plus intelligente, réussir, qui te pousse ? Au départ, tu étais 40 cm. Okay. Tu pleurais, tu dormais à moitié du temps, peut-être plus, qui t'a poussé à grandir ? Bien, c'est cette voix intérieure qui nous pousse à grandir, à devenir meilleur. Vous voulez tous être mieux demain, à part Chas de Shalom, ceux qui sont dans la dépression totale, qui veulent que ça finisse aujourd'hui. Okay. Comment vous pouvez voir quelqu'un qui est dans la dépression totale et qui veut que ça se termine ? Ou il dort, ou il va se faire exploser. Ou sortir un petit peu, parce qu'il sait qu'il va finir sa journée aujourd'hui.
C'est
une dépression. On leur fait croire que c'est autre chose. C'est un idéal, mais en réalité c'est une dépression de la vie. Il n'y a plus de vie. Ça suffit. Donc, quand on se suicide... C'est fini. Alors pour eux, qu'est-ce qu'on leur fait ? Tu as raison, c'est ce qu'on veut leur faire croire, c'est un suicide intelligent malheureusement, dans le mal. C'est-à-dire on leur promet 70 bières. 70 bières, c'est les Arabes, c'est le Olam Haba. C'est-à-dire dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'il y a ? Des femmes, voilà, vierges, qui appartiennent à un seul homme, 70. C'est ça leur kiff dans la vie, c'est ça leur idéal de vie. Alors moi je dis que c'est pas ça. Je dis d'une manière un petit peu rigolote, c'est pas 70 vierges, c'est des vierges de 70 ans. Ils les attendent. Alors, peu importe, c'est avec ça qu'ils kiffent leur monde futur. C'est comme ça que leur Olam Haba, c'est ça. Alors imaginez-vous là où on les pousse. C'est des malheureux, c'est des gens qui ne vivent pas.
Non, c'est sûr que ça leur donne un but, mais
ce que
je veux dire, c'est que... Enfin, c'est sûr que vous en êtes pas d'accord. Je ne crois pas que ce soit comme on parle de la dépression de quelqu'un qui est vraiment déprimé.
C'est une nation qui est dépressive parce qu'elle voit en face de ses yeux se réaliser l'inverse de ce qui est écrit dans leur Coran. Ah. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre et que celui qui dirige cette terre, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une certaine puissance et que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas. C'est une dépression. Alors, leurs idéologistes, les grands, eux, ils savent. Les petits hommes de la rue, ils leur juste leur bourre la tête. Vas-y, va mourir, va-t'en. Hein? C'est tout simplement de dire, en fait, comme il n'y a pas un intérêt, leur but, je veux dire plutôt que leur intérêt, leur but, c'est de d'islamiser le monde. Que la religion, parce qu'ils pensent que le projet divin passe par eux. D'accord? Bien fait. Quand ils accepteront, je ne dis pas aimeront, parce que ça c'est déjà beaucoup demandé, mais quand ils accepteront que nous sommes le peuple que Akadosh Baruch Hu a choisi pour faire ce travail-là, c'est déjà la période messianique, donc il y a une acceptation, une soumission à cette volonté divine, alors là c'est une teshuva de leur part. Vous savez? D'ailleurs les chrétiens c'est pareil, hein? Ne vous fassiez pas d'illusion. Hein? Les chrétiens nous considèrent comme les tueurs de Dieu. Nous sommes condamnés par un homicide. Mais c'est plus un homicide, c'est un déicide. C'est-à-dire, on a tué Dieu. Homicide, c'est tuer un homme. Déicide, c'est tuer Deos.
C'est pour eux, effectivement,
ils pensent qu'on a tué Dieu, mais pour eux, c'est le fils de Dieu. Ça dépend. Ça se mélange, ces jeux. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple d'Israël d'aujourd'hui n'est pas, à leurs yeux, le véritable Israël. Nous avons été maudits par Dieu. Donc, qui est le véritable Israël? Vous avez déjà été dans des cathédrales? Même si vous n'êtes pas rentré, il y a certaines cathédrales où il y a deux femmes à l'entrée. Une à droite de la cathédrale, une à gauche, sculptée en bas-relief dans le mur. Regardez, la prochaine fois, vous pouvez même rentrer sur Internet, marquer la petite France, Notre-Dame, la petite France, à Strasbourg, par exemple. Regardez l'entrée sur Internet, vous allez voir une femme avec la tête baissée et les yeux bandés, avec un nœud, et de l'autre côté, une femme comme ça, belle, majestueuse, et tout ça, en fait. Et il dit, voilà le judaïsme, il doit baisser ses yeux, il a les yeux couverts parce qu'il ne voit rien de la réalité. Et nous, nous sommes la belle femme. La Shrina, Chas Veshalom. Et comment ils appellent cette femme juive, entre guillemets, qui a raté sa mission dans le monde? La synagogue. Vous savez ça? Alors, je vous l'apprends. Alors, synagogue, ça vient de cette femme-là. Et quand tu dis « va à la synagogue », c'est en réalité une définition chrétienne de comment toi tu dois être, c'est-à-dire fermer les yeux, donc tu vois rien du tout. Donc tu n'as rien compris à ton histoire et tu n'es pas en réalité quelqu'un qui continue l'histoire de Dieu dans ce monde. Moralité, tu es l'ancien Israël, tu es en plus de ça, tu es mon Dieu ou le fils de Dieu, peu importe, donc tu es condamné à mort pendant toute ton histoire. On va commencer le véritable judaïsme à partir de zéro. Donc tout ce qui est avant zéro, il faut le tuer. Donc aujourd'hui, on est en 2015, c'est comme ça qu'on doit compter. Donc moralité, nous sommes tous condamnés à mort dans leur subconscient. Ah, il a fait... Tu as touché le point. Il nous dit, je vais répéter ce qu'elle vient de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que justement je voulais y arriver, mais elle l'a trouvé. Comment est-ce qu'on voit que Dieu a maudit le peuple d'Israël? Il les a jetés de leur terre. C'est comme ça que les chrétiens...
Mais c'est ça qu'il leur a pas permis, ils avaient appris ça dans le Bible.
Que nous sommes.
Comme on est revenus.
Voilà. Bien fait. Maintenant que nous sommes revenus sur la terre, alors il y a un problème. Parce que toute la chrétienté se trouve maintenant dans un dilemme énorme. Parce que si c'est le faux peuple d'Israël tel qu'on nous l'a fait croire pendant 2000 ans, comment ça se fait qu'ils sont revenus sur leur terre? Or, dans la chrétienté, on dit que seul le véritable peuple d'Israël reviendra sur sa terre. Donc c'est nous. Donc toute la chrétienté est en train de se casser la figure. Alors, comment ils se sont arrangés, d'après vous? Bien fait. Ils ont dit non, on ne parlait pas de toute la terre d'Israël, on parlait que de Jérusalem. Et comme au départ, en 1948, on n'a pas pris Jérusalem, ils ont dit non, ça ne veut rien dire. Mais 19 ans plus tard, on a revenu aussi à Jérusalem. Alors maintenant, l'os, il est un petit peu plus profond, dans la gorge de la chrétienté. Alors, comment ils s'en sortent maintenant? Le monde du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des problèmes sur le monde du temps. Alors, de la même manière que 19 ans après notre retour à l'État d'Israël, on a eu Jérusalem. Eh bien, après quelques temps, qu'on ait eu Jérusalem, on va aussi avoir le Har HaBayit. Pour l'instant, nous-mêmes, nous sommes finis des peureux. Et on veut garder un statu quo pour ne pas aller déranger les musulmans qui prient. Parce qu'on a peur. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ben voilà, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Pour reconstruire le troisième temple. Mais c'est clair, il faut arrêter de se mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois aller au côté, moi. Mais je ne dois plus aller au côté. Le côté, c'est un mur extérieur. Moi, je veux aller au Bétamigdash. Si vous vous suffisez du côté, c'est que vous n'avez rien compris. Excusez-moi. Il ne faut plus aller au côté. Il faut aller au Har HaBayit. Il faut monter le troisième Bétamigdash. Pour cela, bien entendu, il faut le maintenir. Mais dans mon cerveau, je ne dois sûrement pas m'arrêter à une pierre du côté. Mais va-t'en! Pas seulement au niveau d'aller physiquement, c'est que mon idéal c'est d'arriver là-bas. Je ne peux pas m'arrêter. Écoute-moi, si tu te fixes dans la tête que ta limite de la vie c'est ce livre, quand tu es très proche de ce livre, tu te dis j'ai terminé ma vie. Mais si ma vie c'est d'arriver chez elle, et bien même quand je suis devant un mur, je m'en fous de ce mur. Je lui donne du savoir de ce mur. Mais moi, je veux aller beaucoup plus loin. Vous comprenez? C'est ça qui doit nous pousser. Aujourd'hui, on se ment. Bien fait. On se console du côté. Mais le problème, c'est qu'on se ment dans le sens où on ne dit pas véritablement au monde et à nous-mêmes quelle est notre véritable vie. Ou parce qu'on l'a oublié, ou parce qu'il y a des problèmes géopolitiques. Vincent Bergamour, je suis d'accord. Mais moi, je suis là pour dire. Je ne suis pas au gouvernement, donc je n'ai pas peur qu'on me dise machin, tout ça. J'ai le droit de penser comme la Torah me dit.
Ici, on pourrait le dire, mais dans la diaspora, ce n'est pas évident.
Alors, c'est la même chose, encore une fois. Ça veut dire pas évident, ça veut dire jouer le jeu de la nation dans laquelle tu te trouves. Donc, se déguiser, donc mentir. Quel? Oui, oui, mais c'est pas ça mon but. C'est pas ça le Inyan. Je veux pas qu'on aille en tant qu'individu. Je veux que la nation revienne en tant que nation. Moi aussi j'ai une âme en tant qu'individu, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux que mon gouvernement soit derrière moi et me dise c'est notre but. Ça change tout, c'est plus la même chose. Alors, que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, ça c'est un problème illustratif du deuxième degré après. Moi, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de parler, c'est de savoir vers quoi nous devons aller au niveau de notre idée. Bien fait. Alors, malheureusement... Alors, il y a un problème. Et où en Israël? Tu peux, parce que tu peux reculer de plus en plus. Il y a des gens qui ne sortent pas de Tel Aviv, de Tel Aviv, et qui ont peur de revenir même à Jérusalem, et ainsi de suite. Tu peux te confiner dans ta petite, dans ta rue. Tu ne vois pas plus large, tu ne vois pas loin, tu ne vois pas grand. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, au moment où donc on revient à Jérusalem, eh bien, tout est en train de se mettre en place pour... Excusez-moi, il y a mon beau-père qui me téléphone, c'est pas pour ça depuis que je fais le temps.